Radio Cassine, Grand Témoin. L'ancien ministre de l'Éducation, ancien conseiller principal du chef de l'État et professeur d'université, André Masialama Solo, est celui que Grand Témoin reçoit pour vous aujourd'hui. Bonjour professeur André Masiala.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi qui suis honoré.
Alors avec vous dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. Vous allez partager votre expérience avec nous dans le domaine de l'éducation. C'est vrai que vous avez occupé aussi certaines fonctions politiques dans le pays. On va en parler tout au long de notre entretien. Mais commençons par une petite biographie de vous. Vous voyez le jour un certain 1er janvier 1946.
Exactement.
Où?
À Kinkondi, dans mon village, en Lutolo.
Dans la province du Bakongo?
Oui, territoire de Lukula.
C'est dans cette province où vous passez votre enfance, où vous grandissez?
Pas tout à fait. J'ai quitté assez tôt pour aller à Sekebanza, l'école primaire, en 1955. Et j'ai quitté Sekebanza en 1960 pour aller à Kinkese, où je suis resté 8 ans, 2 ans de l'école primaire. Et 6 ans de l'école secondaire. Et après, j'ai commencé de aller par-ci, par-là, pour les études. Et j'ai fini par aller en Suisse, à Genève, pour les études doctorales en psychologie.
Vos études universitaires, vous les avez faites où?
J'étais à Louvain. À l'époque, c'était Louvain en 1970, enrôlé sous le drapeau. En 71, je me suis retrouvé à l'université, au campus de Kisangani, parce que notre faculté de psychologie de centre d'éducation était transférée à Kisangani, où j'ai terminé en 74.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme études aux humanités?
Aux humanités, j'ai fait les humanités pédagogiques, la pédagogie générale. Oui.
Vous espériez devenir qui en faisant la pédagogie?
Oui, je voulais devenir enseignant. Professeur.
Vous avez une passion pour l'enseignement?
J'ai une passion parce que j'ai vu mes enseignants, c'était des femmes américaines, des Haïtiens, des Britanniques et d'autres qui étaient là. Ils m'ont vraiment fasciné et je voulais devenir comme eux.
Et vous avez étudié dans de bonnes conditions?
J'ai étudié dans de très très bonnes conditions depuis l'école primaire, l'école secondaire. Bon, j'ai eu quelques difficultés à l'université. Lorsque nous étions sous le drapeau, pendant 2 ans, j'étais obligé de porter le sokoto, le costume de militaire, et aller à l'université. Vous voyez, Kisangani, c'est une chaleur atroce. Oui, il fallait supporter ça. Puis, nous étions très distingués par rapport aux autres collègues. Ça nous mettait par moments mal à l'aise. Mais j'étais dans de très, très bonnes conditions.
Quel souvenir vous gardez de votre enfance, André et Marcella? Un souvenir qui vous a marqué.
Qui m'a marqué, c'est l'activité.
J'étais très actif.
J'étais à la fois le meilleur élève de mon école primaire, l'école secondaire, et j'étais tôt responsable de l'école du dimanche à l'église. J'étais membre du conseil paroissial, déjà en 64, alors que j'étais baptisé seulement en 62, le 12 mars. Donc ça m'a marqué, cette activité. C'est dévouement, le souci d'accomplir les choses que j'entreprends. Je les ai toujours entreprises.
André Marcella, est-il marié?
Je suis marié et père de 6 enfants. J'ai eu 4 garçons qui ont grandi, 4 universitaires, et les 2 autres sont encore en course.
Vous êtes docteur en psychologie. La psychologie, c'est cette science qui étudie le comportement des êtres humains, professeurs.
Vous avez bien retenu ce qu'on vous a enseigné. Effectivement, la psychologie s'intéresse à l'être humain lorsque celui-ci répond aux sollicitations internes, mais aussi aux sollicitations externes. Et c'est ce que vous appelez le comportement. C'est la réponse qu'il donne à tout ce qui le sollicite.
Pourquoi cette spécialisation en psychologie? Qu'est-ce qui vous fascine?
J'aime l'être humain, l'homme comme la femme. Et je les aime naturellement. Et je voulais savoir ce qu'ils sont réellement. Et comment ils répondent à des situations réelles et même à des situations inédites. Donc je me suis intéressé à l'homme et surtout à l'enfant. Parce que j'aime tout ce qui croit, qui s'épanouit et l'accompagner effectivement. Et c'est ce que je fais jusqu'à maintenant. Et ça me passionne.
Et vous avez aussi un autre diplôme en psychologie clinique et théorie pratique. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, psychologie clinique et psychologie tout court?
Oui, psychologie tout court, ça c'est les études de base. Psychologie clinique, c'est une formation de spécialisation. La commencé des spécialisations ici, qui m'avait permis de devenir un psychothérapeute. Ce psychothérapeute est principalement des enfants, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont perdu confiance en elles-mêmes et toutes les personnes qui sont vacillantes parce que tourmentées par les situations qu'ils vivent m'intéressent. Alors je vais le suivre non plus comme des groupes, mais je vais le suivre comme des individus et les situer par rapport à eux-mêmes et ensuite par rapport au groupe auquel ils appartiennent.
Et ce genre de personnes, il y en a beaucoup en RDC.
Il y en a beaucoup.
Clair, parce que c'est un pays post-conflit, beaucoup de gens sont restés traumatisés. Comment est-ce qu'on peut arriver à guérir ce traumatisme, professeur Massiela?
Bon, dans mon parcours, j'ai pu mettre en place une unité de psychothérapie. J'ai fait venir Mme Petra Meyer, une Allemande, et qui a formé une quinzaine de jeunes, femmes et hommes, qui se sont engagés dans l'accompagnement des personnes qui sont tourmentées. Et moi-même, j'offre effectivement des consultations lorsque des gens viennent me voir pour telle ou telle autre situation.
On n'est pas obligé d'être docteur ou de passer à l'université pour arriver à aider ces gens-là. On peut se chercher une formation et arriver à aider ces gens qui sont traumatisés, qui ont des problèmes.
Bon, ça, c'est le côté vulgarisation. L'université a le devoir de former de façon classique. Il a le devoir d'entreprendre des recherches. Il a aussi le devoir de vulgariser les connaissances qui sont déjà stabilisées et situées. Alors, les personnes, maintenant, il y en a pas plus de 30, 36 même. Comme par hasard, sont tous des universitaires, mais je les ai entraînés, nous les avons entraînés à savoir comment écouter et comment être en relation avec quelqu'un qui souffre. Mais parfois, qui est incapable de dire sa souffrance, même de la reconnaître. Alors, il faut aller pousser la vie pour que les gens sachent exactement de quoi s'agit-il et qu'ils se mettent en route pour chercher la réponse aux situations désobligeantes.
Donc, vous arrivez à aider ces gens-là, professeur?
Oui, nous arrivons à détraumatiser les personnes qui ont été, comme vous dites, traumatisées, stressées, violentées, violées même dans leur propre corps intérieur.
Et elles arrivent à reprendre conscience?
Oui, mais il faut beaucoup de temps, parce que ce n'est pas vous qui donnez les réponses ou les solutions à la situation, c'est elles qui doivent découvrir quelle est la situation et quelles sont les réponses possibles.
Quel genre de propositions vous faites à ces gens-là pour arriver à les détraumatiser?
Donc, nous engageons un entretien psychothérapeutique qui renvoie la personne à elle-même. Donc, ce n'est pas facile, il faut beaucoup de temps pour arriver. J'ai des patients que j'ai constatés depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans. On constate de minimes améliorations. Alors, on poursuit ces améliorations, on leur donne la possibilité de reprendre conscience en elles-mêmes. Et ils arrivent parfois à reprendre conscience en elles-mêmes.
Et quand vous n'atteignez pas l'objectif ou les résultats attendus, est-ce la faute du patient ou c'est votre faute?
Bon, c'est difficile de dire que c'est ma faute ou la faute du patient. Il faut rallonger le temps de contact, du dialogue, d'entretien, d'accompagnement, d'éveil. Et quelqu'un qui est endormi, pour le réveiller, il ne faut pas le brutaliser. Il faut aller doucement. Et parfois, ça peut prendre beaucoup de minutes, ça peut prendre une heure pour que la personne se retrouve elle-même et puisse travailler avec vous. Donc, c'est un problème de patience. Savoir écouter. Beaucoup ne savent pas écouter. Et savoir, bien sûr, parler. Une écoute active, une parole active, ce n'est pas toujours facile. C'est un problème de temps, un problème de persévérance, un problème de confiance en ce qu'on entreprend. Voilà ce que j'ai retenu aussi de ma jeunesse, savoir entreprendre et aller au bout de ce qu'on a commencé à entreprendre.
Est-ce que ça peut arriver aussi que vous ne puissiez pas atteindre l'objectif et que la personne arrive à se suicider, par exemple, parce qu'elle n'a pas trouvé solution à son problème?
Je n'ai pas encore eu le cas de suicide, mais il y a des cas de désertion. La personne disparaît. J'en connais deux, une dame qui a disparu, deux dames qui ont disparu, un garçon que je n'ai pu le retrouver. Des garçons de la rue, parce que j'ai aussi sorti beaucoup de jeunes, de filles comme des garçons de la rue, et qui aujourd'hui se trouvent dans des responsables.
Et c'est vous qui allez vers ces enfants, vers ces personnes?
Je suis allé au début vers ses enfants, ces personnes, maintenant je ne veux plus vers ces personnes. C'est elles plutôt qui viennent au centre. Je tente de monter une clinique de psychothérapie sur l'avenir où vous m'avez trouvé.
Et donc les personnes qui viennent vous voir pour la consultation, elles se font gratuitement ou
se fait gratuitement. Je voulais d'abord installer effectivement la profession. Oui. Donc c'est gratuitement, c'est offert comme à titre d'essai, à titre d'accompagnement, à titre didactique. C'est-à-dire la formation de ces jeunes qui sont avec moi, de ces mamans qui apprennent et de ces papas qui apprennent aussi.
Alors il y a une certaine opinion qui estime que le Congolais en général est traumatisé de façon permanente. Compte tenu de la situation socio-économique, professeur, qu'est-ce que vous en pensez?
Nous le constatons, et vous regardez la conduite sur la rue, n'est-ce pas? Les chauffeurs qui conduisent, de ces deux personnes, j'ai l'impression, je peux le confirmer, assez chargés, qui sont tourmentés dans les convois à travers leur conduite. Je constate ça quand je vais au marché ou je vais dans une boutique. Vous ne pouvez pas poser la question deux fois à une vendeuse ou à un vendeur sans qu'il vous raboue. Vous voyez? Donc, ceux qui ont l'argent viendront acheter. Et ils savent que moi j'ai l'argent. Et donc, est-ce que c'est du professionnalisme qui manque ou c'est parce que nous sommes chargés, on n'a pas bien mangé, on n'a pas dormi, sans piqûre de moustique chaque jour ou chaque nuit? Et ça vous laisse pas indifférent. Il y en a qui dorment dans des conditions vraiment exécrables. Mm-hmm. C'est dommage de le dire, mais nous pouvons le tester. Au travail, il y en a qui sont harcelés, il y en a qui sont tourmentés, il y en a qui sont forcés d'aller au travail parce qu'il faut aller travailler. Professeur Ngoma Ngambo, de Russe Mémoire, décédé, le meilleur sociologue que nous avions, il nous rappelait vers la fin de sa vie qu'il travaillait par nécessité. Personne ne doit travailler par nécessité. Ils vont travailler parce que c'est inscrit dans la vie d'un individu qui vend et ses qualifications et ses forces et sa disponibilité pour avoir en retour de quoi être content. Mais le salaire, parfois, il n'est pas décent.
Et donc, lorsque l'individu est mis dans des bonnes conditions, meilleures conditions,
dans le meilleur de lui-même.
Et ça fait combien d'années déjà que vous êtes, que vous faites ce travail, professeur Marcelin?
Bon, je pourrais dire qu'à partir de la fin de mes études de doctorat en Suisse, en 81, je me suis installé ici en 82, mais le travail lui-même, pour m'en dire, a commencé en 86, le 2 février, le jour du lancement du Centre congolais de l'enfant de la famille.
Vous aimez ce que vous faites?
J'aime ce que je fais. Même quand je vais...
C'est pas par nécessité?
Non, je ne travaille pas par nécessité. Dieu m'a donné beaucoup de chance, beaucoup de force, beaucoup de grâce, et beaucoup de bénédictions pour que je ne travaille pas par nécessité. Je fais ce que je veux faire. Et quand je dis oui, ce que je veux faire et que j'aime ça.
Vous êtes coordonnateur du mouvement international pour la défense des enfants et de la famille.
La DEI se trouve dans plus de 100 pays. Il existe un pays de défense internationale des enfants qui a son siège à Genève.
Vous êtes le coordonnateur?
J'ai joué ce rôle longtemps, mais quand vous allez au gouvernement, j'étais obligé de demander à M. Tata. N'est-ce pas, M. Tata, parce que c'était difficile de marier et la défense des enfants nationales et l'activité gouvernementale pour jouer le rôle. Mais j'assiste, j'aide, j'accompagne à la nouvelle équipe.
Vous avez aussi travaillé comme expert au Bureau africain des sciences de l'éducation?
Oui, je suis un éducateur né et lorsque le Bureau international du centre d'éducation s'installer ici avec le professeur Mongala. Le professeur Mongala avait estimé que je puisse être l'une des épaules pour accompagner le travail ici. Alors j'ai offert une partie de mon temps, on a négocié la remise en état, la réhabilitation de la justice des mineurs ici. Et je suis fier de constater qu'enfin, les anciennes lois qui portent organisation et fonctionnement concernant les enfants a été signée et promulguée. Un travail de longue date. Le professeur Lunda Bululu, premier commissaire d'État à l'époque, en 1990, et s'est tenu le sommet de l'enfant à New York. J'avais été saisi son bureau pour qu'il se rende à New York et que le Congo participe à cette grande activité des droits de l'enfant. Ici était rendu. La Convention des droits de l'enfant avait été signée et même ratifiée ici. Et ça, c'est une des grandes activités que nous avons menées à l'époque et qui sont achevées maintenant.
Qui
ont porté du fruit jusqu'à la promulgation de la loi sur le droit de l'enfant et de la famille, et principalement la protection de la jeunesse et de l'enfant en République démocratique du Congo.
Je constate que vous avez un sens aussi pour la jeunesse,
oui.
Pour les enfants.
Oui. J'ai monté un certain nombre d'activités ici pour les enfants, pour la jeunesse. J'ai un atelier qui est animé par des collègues, des collaborateurs, pour les filles mères et les filles désespérées, qui retrouvent un espoir, une espérance dans la vie, de coupe et couture. Maintenant, nous allons mettre en place une structure qui va aider les jeunes dames à apprendre à cuire.
Vous êtes financé ou vous le faites par vos propres moyens?
Bon, tout l'argent que j'ai gagné en différents endroits où j'ai travaillé a été réinvesti dans cette activité. Financé, j'ai des amis qui participent à l'œuvre que le Seigneur m'a donné à déployer ici, mais les dons ne sont pas structurés. Les dons ne sont pas structurés. Et ça varie de haut en bas, suivant les moments. Maintenant, on est dans une période très difficile financièrement. 2011 est une année difficile pour nous. Mais nous avons l'espoir, nous espérons toujours pouvoir réaliser ce qui est notre projet. C'est comme ça que nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nos écoliers et continuer à expédier une activité pour moi de noblesse.
Professeur André Marciana, vous avez occupé aussi des fonctions politiques dans ce pays. Vous avez travaillé comme conseiller principal du chef de l'État, actuel chef de l'État, mais aussi vous avez été ministre de l'Éducation dans ce pays. Depuis un certain temps, une certaine opinion estime que l'éducation a vraiment régressé en RDC. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette régression, professeur?
C'est une question complexe, parce que le territoire, notre aîné, il a publié un ouvrage dont le titre est « L'école trahie ». Et quand il a essayé d'inventorier celui qui aurait trahi l'école, il a constaté qu'il y a toute une gamme de facteurs. L'école elle-même s'est trahie aussi. Je peux ponctuer sur la situation politique elle-même. La loi qui devait porter sur l'organisation et fonctionnement du système éducatif, qui était déposée à l'Assemblée nationale, j'ai l'impression qu'elle n'est même pas inscrite sur la liste des documents qui devraient être examinés par la législature qui termine maintenant. Donc, il y a un problème. Et ce texte qui existe est un texte vétuste, un texte avec beaucoup de contradictions. L'école a été tourmentée par la crise financière. Et si vous voyez la portion d'argent qui est réservée à l'éducation, elle est minime. 1%, 2%, 1,5% dans ce budget d'un grand pays comme le nôtre, avec à peu près 5% de jeunes jusqu'à 30 ans. Alors, c'est difficile. Les parents eux-mêmes, vous voyez, il y en a qui ont vendu les lits, qui ont vendu les radios, qui ont vendu des matelas pour pouvoir soutenir l'effort éducatif, parce que l'éducation a un coût. Honnêtement, puis il faut que quelqu'un paye. Si ce n'est pas l'enfant, l'élève lui-même, l'étudiant qui paye, ses parents doivent payer. Pourtant, l'État a un rôle subsidiaire dans cette fonction-là.
Les parents, c'est vrai que les parents payent, mais ils ne font pas le suivi.
Ils ne font pas le suivi. J'ai été président des comités de parents à l'école où étudiaient mes enfants, mais combien venaient aux assemblées générales? Combien savaient l'école réellement, l'école où étudient les enfants?
Il doit aller chercher l'argent pour nourrir sa famille.
Il doit aller chercher l'argent pour nourrir. Alors il envoie la bonne ou le domestique pour venir à l'assemblée. Mais qu'est-ce que de sa contribution, la bonne et le domestique? Pas du tout. Donc il y a plusieurs facteurs et puis tous les livres sont vétustes. Même parfois il n'y en a pas. Les programmes, j'étais à Guémena une fois.
Il faut réformer.
Je n'ai pas trouvé, même pas la table de matière. quoi. Il n'y en a pas. Le programme lui-même n'est pas. Le maître doit inventer ce qu'il enseigne. Sinon, il doit se référer à ce qu'il a appris il y a 40 ans. Alors, ça pose un problème. Et on a amené la politique à l'université. Alors que l'université, c'est une chose particulière où on ne doit pas mettre de mélange. Il y a même un texte de loi qui existe pour que les milieux éducatifs ne soient pas politisés. Mais malheureusement, ils le sont. Alors ça perturbe l'activité. Regardez ce qui se passe à l'université qui fait ça. C'est curieux. Dans un milieu de formation, on doit former l'élite. Mais il y a beaucoup de tribouilles. Regardez ce qui se passe à l'IPM. Ce qui se passe à différents endroits ici, c'est très très difficile. Alors tout ça diminue bien sûr, ça, l'essentiel de ce qu'on devrait amener comme éducation, comme formation, comme instruction dans le système éducatif congolais.
Mais on dit souvent que les personnes qui ont des ambitions politiques commencent par l'université, tout commence par l'université.
Oui, je les ai vus quand j'étais à l'Ovanium, l'IGEP était un grand mouvement. Des mouvements d'étudiants qui avaient des pensées politiques. On dit que ceux qui sont à l'université ou à l'école secondaire ou l'école primaire ne doivent pas exercer leurs ambitions politiques à l'endroit où ils travaillent. Mais ils ont le droit d'avoir une pensée politique, mais pas d'agir là, à l'école. Mais on s'en sert. Bon, moi, j'étais enfant, je pensais devenir enseignant. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont vu, s'ils ont constaté que j'avais des aptitudes ou les aptitudes ou quelques grains de comportement d'un enseignant. Peut-être qu'ils l'ont constaté.
Professeur, où en est-on avec la réforme de l'éducation? Parce que c'est vous qui conduisez les travaux de réforme.
J'ai présidé les travaux des États généraux de l'éducation. Et ça, c'est vieux. C'est 95, 20 mai 1995 et 29 janvier 1996. Et c'est le Premier ministre Kengua Dondo et tous les autres représentants, les acteurs du monde éducatif qui avaient réceptionné les documents qui avaient été conçus à l'époque. Mais je crois qu'il a été flop parce qu'il est venu après une révolution. Et les collègues, je vois le ministre Martin Mango, fournit un effort immense pour essayer de redresser le système. Mais il faut beaucoup de...
Vous aviez l'occasion de relancer cela, puisque vous avez travaillé, vous étiez conseiller principal du chef de l'État.
Mais dans tout un autre domaine, madame. Vous avez des difficultés quand je discutais avec mon collègue, le feu Samba Kapoutou, le professeur Samba Kapoutou, quand il me communiquait ce que le chef de l'État voulait que je fasse. Je devais le représenter dans le domaine de la loi. Je lui ai dit que j'ai passé 3 mois à la faculté de droit à l'Ovanium et j'avais demandé le transfert à la faculté de psychologie. Donc je ne connais rien de droit. Il dit non, c'est toi.
Et comment vous avez fait pour vous en sortir?
L'université, c'est ça la chance qu'elle a. C'est peu de temps seulement pour pouvoir s'adapter à de nouvelles situations. Donc je me suis adapté à la nouvelle situation, mais je n'avais pas le mandat de l'éducation à l'époque.
Mais vous pouviez proposer, par exemple, c'était pas faisable?
C'était pas tout à fait faisable. Mais nous avons accompagné la préfiguration de la loi qui est maintenant déposée à l'Assemblée nationale pour examen et plus tard au cabinet du chef de l'État pour promulgation.
Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir l'éducation?
Il faut d'abord la norme. Il faut que la norme soit spécifiée. Et c'est ce que le ministre de l'Éducation maintenant, celui de l'enseignement primaire secondaire professionnel et celui de l'enseignement supérieur universitaire, tente de faire. Il faut d'abord la norme. Lorsque la norme est claire, il faut maintenant l'expliquer à ceux qui doivent l'agir. Et ça, c'est la deuxième étape. Et à partir de la norme, on peut reformer le programme. On peut construire des modèles pour la formation des enseignants, la formation des inspecteurs. Vous voyez, les inspecteurs, maintenant, ils sont que des noms. Je suis désolé de le dire, ils sont que des noms. L'inspecteur que j'ai connu, qui venait dans ma classe, à l'école primaire, n'est pas celui qui est actuellement en fonction. Donc, il y a un problème à la fois des outils comme la norme, la loi, il y a un problème problème d'hommes, de personnes qui doivent interpréter cette norme, agir cette norme, qui est un problème de l'infrastructure. Vous avez une faculté de médecine à l'auditoire qui autrefois était de 50 personnes, aujourd'hui des milliers de personnes. Quel est ce médecin qu'on va former?
Et celui dans les mauvaises conditions.
Oui, quel est ce médecin qu'on va former correctement et réellement lorsqu'il n'y a pas de laboratoire de sciences de base, lorsqu'il n'y a pas d'équipement pour s'entraîner, pour s'exercer, lorsque le professeur est aussi pressé parce qu'il a mis un programme à exécuter le même jour. Donc c'est difficile, c'est dramatique, mais il faut faire avec, malheureusement. Oui.
Alors, professeur, vous êtes professeur d'université, vous donnez cours à l'Institut, à l'Université pédagogique nationale,
et à l'Université protestante au Congo.
Et à l'Université protestante au Congo, UPC.
Oui,
je veux revenir un peu en arrière. On va parler de votre ONG.
Oui, Centre Congolais de l'Enfant de la Famille.
Qui s'occupe des enfants de la rue.
C'est celle-là.
Comment vous expliquez le fait que certains enfants, bien qu'ayant une famille et une habitation, préfèrent rester dans la rue?
J'étais très touché. Si vous aviez l'occasion de retrouver mon livre Les Enfants des Personnes, mon premier essai, vous verrez que je décris une situation dramatique d'un enfant d'un haut cadre qui est dans la rue. Vous trouverez que sur trois enfants d'une famille, il y a un qui est dans la rue et les deux autres supportent la pression, la précarité et tout ce que la famille leur offre. Sur cinq ou dix filles de ménage, il y a une qui est installée dans la rue comme fille de joie. Et les autres essayent. On ne sait pas si elles essayent ou elles se contentent ou elles trouvent leur compte dans la famille. Chaque personne est elle. Ça, vous devez retenir ça, les auditeurs doivent aussi retenir ça. Chaque personne est elle, ce qu'on appelle l'équation personnelle. C'est que mon histoire est vraiment mon histoire, ce n'est pas l'histoire de ma soeur ou de mon frère ou de mon cousin. Donc, il y a, si je parlais en termes de Calvin, Jean Calvin, chacun a une destinée. Et moi, je ne m'enlise pas dans la destinée parce que la vie, il faut la construire et la réaliser. Donc, chacun réalise la vie, la construit de sa façon.
Comme il entend.
Comme il entend et avec les outils qui sont disponibles. Et souvent, il rejette même les outils qui sont disponibles et construit son histoire de sa façon.
Et de plus en plus, ce phénomène prend de l'ampleur et ces enfants de la rue sont très agressifs.
Oui.
Ce qu'il faut faire pour notre part, pour
avancer
ce phénomène.
Ils deviennent agressifs, madame, parce que vous avez dit que les Congolais que nous sommes, nous donnons l'impression d'être traumatisés.
Permanent,
je dirais, à jamais. Parce que tout nous agresse. Alors, quand ils n'ont plus rien à ramasser, même dans les poubelles, il n'y a plus rien à ramasser. Ils doivent vivre sur les êtres humains. Alors, ils agressent, ils vont vérifier dans les poches de ceux qui sont distraits et ils essaient de se servir.
Et vous comprenez ce comportement?
Non, donc, je suis obligé de comprendre le comportement parce que je suis resté jusqu'à 35 ans dans ma formation à l'université pour étudier seulement le comportement de l'être humain. Je voulais savoir ce que l'homme est dans les différentes situations où il se trouve.
Et on peut arrêter ce phénomène?
Non, c'est des phénomènes comme la prostitution, si on peut encore utiliser le terme, c'est difficile d'arrêter, on peut atténuer, c'est-à-dire réduire l'ampleur. Et si c'est non, ce n'est pas facile de réduire l'ampleur parce que...
Pourquoi c'est pas facile?
Mais il n'y a plus que des enfants de la rue, il y a même des adultes de la rue.
À un moment, on a commencé à arrêter ces enfants de la rue pour...
Arrêter n'est pas la réponse. Je dis ça à maître Pise, que arrêter n'est pas... la réponse. Mettre dans prison, c'est pas quelle prison, la plus haute sécurité, ce n'est pas la réponse. Il faut donner les réponses qui sont sollicitées par la communauté. Le phénomène de la rue, c'est une demande sociale qu'il faut examiner. Ce n'est pas un phénomène fondamental en soi, c'est un symptôme. Et vous voyez, le symptôme est variable. Il y avait autrefois beaucoup de jeunes sur le boulevard. Et il y a des moments où ils ne sont plus là. Ce n'est pas parce qu'on les a enfermés à Makala ou je ne sais pas où qu'ils ne sont pas là. Mais peut-être qu'ils trouvent la réponse en allant revendre des beignets ou d'autres choses par-ci par-là. Ou aller laver les assiettes de papa qui ont mangé dans les Malewa ou je ne sais pas. Donc il y a une réponse sociale qu'il faut donner à des phénomènes comme l'arrivée.
Quand vous parlez de réponse sociale, c'est quoi concrètement? C'est le gouvernement qui doit améliorer les conditions de vie des Congolais pour mettre fin à cette situation?
Oui, le premier acteur, l'acteur principal dans le problème de la population, c'est l'État. Quand je suis entré au gouvernement, pour la deuxième fois dans l'éducation. Mon accent était sur l'école technique et professionnelle. Est-ce qu'on a formé quelqu'un en patrie, en ingénierie, ou je ne sais pas, et bien cette personne devient stable. Mais si on a seulement rempli, essayé de remplir la tête, elle va parler beaucoup, elle rencontre les parlementaires debout, et tout ça, des gens qui s'enivrent par la pensée, une pensée inassouvie, une pensée qui n'a pas le lendemain, et bien vous les rendez plus étourdis que si vous l'aviez formé la tête, le cœur et la main.
Là, c'est un psychologue qui parle au professeur. Bonjour, ma chère. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment, tous ces Congolais qui sont traumatisés, qui ont perdu conscience en eux-mêmes par rapport à la situation du pays? Qu'est-ce que vous pouvez, quel message vous pouvez leur lancer aujourd'hui?
Le message est fondamental et important, c'est qu'il n'y a rien de perdu. Il faut toujours espérer. Et pour espérer, il ne faut pas s'asseoir, il faut travailler. Il faut travailler, il faut chercher, il faut construire, il faut grandir la dose et l'amour qu'on a pour soi-même et pour les autres.
Merci, professeur André Maciala Massono. Je rappelle que c'est vous qui êtes notre grand témoin d'aujourd'hui. Vous êtes ancien ministre de l'Éducation, ancien conseiller principal du chef de l'État et professeur d'université. Merci à Paul Badiania Maciala à la technique, au micro Kéline Zété. Vous trouvez cette émission sur notre site internet www.radio-okapi.net. Pour souhaiter une bonne fête des Pâques à tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment.